France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 6 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, c'est reparti pour une petite semaine d'école à la maison. Principale mesure de ce troisième confinement, 12 millions d'élèves concernés, sans oublier parents et enseignants. On va le voir Agnès, après les autres titres.
Et c'est aussi le jour J pour le vaccinodrome du Stade de France, objectif 10 000 injections par semaine. L'euthanasie, un débat qui transcende les étiquettes politiques, mais bien difficile à mener en temps de Covid. L'inquiétude à nouveau sur l'état de santé d'Alexei Navalny, amaigri et fiévreux dans sa prison près de Moscou. Et enfin, un marathon de Paris cette année écolo et à la carte.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
L'État, à nouveau au chevet d'Air France, la compagnie aérienne frappée de plein fouet par la crise, recevra une nouvelle aide aujourd'hui. Quel est son montant, ses conditions? Bruno Le Maire nous le dit en exclusivité à 7h50. Rendez-vous avec le ministre de l'économie.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau et Jeanne Allaire-Caillegirois. Elle est rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est la table de la cuisine qu'il va falloir de nouveau partager, l'ordinateur familial qu'il va falloir se prêter au gré des visios, les repas qu'il va falloir préparer matin, midi et soir et les balades qu'il va falloir organiser pour se défouler. C'est donc reparti pour quelques jours d'enseignement à distance. 3 jours ou 3 jours et demi cette semaine. Les collégiens et les lycéens auront une semaine supplémentaire fin avril. Mais un an après la première expérience d'enseignement à distance, Sonia Princé, du côté des 800 000 enseignants, l'état d'esprit a bien changé.
Ne pas refaire les mêmes erreurs et surtout relâcher la pression. Ce sont les objectifs des enseignants. Octave est professeur de français dans un collège. Pour lui, pas question de refaire cours par visioconférence.
L'expérience que j'ai eue des cours à distance était très mauvaise. J'avais à peine un quart de mes élèves qui se présentaient aux cours virtuels sur la plateforme du CNED. Comme il s'agissait beaucoup de jeunes élèves de 5e, 3e, etc., ils n'avaient pas très envie de participer en vocal. Aucun ne mettait la vidéo, ce qui peut aussi se comprendre. On a droit à son intimité quand on est dans son propre logement. Du coup, c'était des expériences assez surréalistes où on se retrouvait à parler tout seul pendant 20, 30, 40 minutes.
Il donnera plutôt des exercices aux élèves et leur fera un retour. Même chose pour Frédéric, qui enseigne en CM1.
Moi, je me suis organisé de manière assez simple pour déjà fournir toutes les photocopies aux élèves en fait le vendredi pour qu'ils puissent déjà travailler en autonomie. Et puis, on travaille à l'école avec un ENT, donc un espace numérique de travail. Donc, en lien avec les feuilles que je leur ai données, en fait, je mets toutes les explications pour les différents exercices. Je leur intègre aussi des vidéos pour leur expliquer telle ou telle notion, sachant que dans cette semaine-là, en fait, il n'y aura aucune nouvelle notion, ce ne seront que des révisions.
Les enseignants sont beaucoup plus détendus par rapport au premier confinement. Les élèves aussi. Certains ont déjà dit bonnes vacances à leurs professeurs.
Alors attention quand même, les vacances, ce sera à la fin de la semaine pour 15 jours avec un même calendrier sur tout le territoire et selon des règles identiques pour tous, couvre-feu à 19h et interdiction de dépasser la limite des 10 km autour de chez soi, sauf motif impérieux. Ce mardi est donc également synonyme d'ouverture du vaccinodrome du Stade de France en Seine-Saint-Denis, symbole d'une vaccination à très grande échelle. Ce méga-centre sera ouvert 6 jours sur 7, de 9h à 20h, ouvert à tous les habitants de la région qui peuvent y prétendre, les plus de 70 ans et les plus de 50 ans avec comorbidité. Mais l'objectif est aussi de vacciner les habitants de la Seine-Saint-Denis, département qui a actuellement le plus faible taux de vaccination. Reportage d'Agera Mohamed.
Pour répondre aux appels, le département a recruté 50 étudiants et leur a donné une consigne à suivre.
Priorité au 93, c'est ça.
Et oui, car sur les 10 000 créneaux de rendez-vous proposés chaque semaine, la moitié est réservée aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Ce numéro leur est dédié, surtout à ceux qui ont du mal à s'inscrire en ligne.
Notez simplement que c'est à 9h15 et c'est au Stade de France. Vous avez d'autres questions ?
Pourtant, à l'autre bout du fil, certains tentent leur chance, même s'ils n'habitent pas le 93. À vous, Brigitte, responsable d'équipe.
Il y a aussi des gens qui appellent d'autres départements. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça permet de leur dire qu'ils peuvent aussi s'inscrire pour la vaccination au Stade de France, mais en passant par Doctolib. Donc pas de problème, ça fait toujours des gens qui vont se faire vacciner. Et le but, c'est vraiment d'accélérer la vaccination pour lutter contre la maladie.
Et entre deux coups de fil, Shana, 19 ans, relance les habitants du département, dont la cible n'est pas encore inscrite.
On les contacte, on leur envoie un petit rappel, on envoie notre numéro pour qu'ils prennent rendez-vous. Un petit message de prévention, quoi. Après, il y a des personnes aussi qui nous appellent pour nous remercier, juste, hein, de nous dire merci de nous avoir envoyé un message. Je vais prendre rendez-vous très prochainement, voilà.
De quoi rendre fiers ces jeunes qui ont l'impression, disent-ils, de participer à l'effort national pour venir à bout de cette épidémie.
Et nous serons en direct du Stade de France dans le journal de 8 heures. À noter que c'est également aujourd'hui qu'ouvre le vaccinodrome du Havre dans l'enceinte du Stade Océane. À Lyon, c'est déjà une réalité avec 10 000 personnes vaccinées ce week-end dans l'antre de l'Olympique lyonnais. Et puis dans les hôpitaux, la pression reste très forte avec 5 433 patients en réanimation.
Il est 7h06, Agnès, c'est dans ce contexte sanitaire si particulier que sera débattue jeudi à l'Assemblée une proposition de loi sur l'euthanasie.
Un texte défendu par le député Olivier Falorni du groupe de centre-gauche Liberté et Territoire. Toute la gauche y est favorable, une majorité de marcheurs et plusieurs élus du centre et de droite. Mais il a très peu de chances d'aboutir car une poignée de députés conservateurs, les Républicains, ont déposé près de 2300 amendements pour empêcher son adoption dans le temps imparti, qui est d'une seule journée. Quoi qu'il en soit, Maxence Lambrecq, ce texte transcende les formations politiques et relève souvent d'une expérience très personnelle.
Consigne de vote impossible. À droite, par exemple, une quinzaine de parlementaires est favorable au texte.
La mort fait partie de la vie, ça concerne tout le monde.
La députée LR Marine Brenier porte ce sujet depuis 2012.
J'ai une grand-mère qui est décédée sous la loi Leonetti II à l'hôpital, qui grâce au dispositif de la sédation profonde et inconsciente est partie très rapidement. Et à contrario, j'ai un grand-père qui est décédé à domicile et qui lui n'a pas pu bénéficier d'un départ dans de bonnes conditions.
Point de départ d'une réflexion, puis d'une conviction. Elle a participé à la rédaction de cette proposition de loi.
Je ne la voterai pas, évidemment. Ça va à l'encontre d'une pratique de 30 ans de médecine.
Marc Delatte, député En Marche, après avoir été dans une équipe mobile de soins palliatifs, confronté à des demandes d'euthanasie.
Lorsqu'il y a une écoute, quand on prend le temps de l'écoute, lorsqu'on répond aux souffrances, elles sont multiples, cette demande, de toute façon, s'estompe.
Il plaide, lui, pour le développement des soins palliatifs et n'apprécie pas un tel débat dans ce contexte.
J'ai repris mon stéto, ma blouse, pour sauver des vies. Je veux dire, voilà, mettre une loi sur l'euthanasie en ce moment, c'est pas le moment. Enfin, moi, je trouve que parfois, je dis, on marche sur la tête.
Ce qui est aussi l'avis de l'exécutif, qui juge le moment inopportun et veut reporter ce débat à la campagne présidentielle.
Et le débat aura donc lieu après-demain à l'Assemblée. L'avenir d'Air France avec une année 2020 catastrophique et une dette à 11 milliards d'euros. La direction présente aujourd'hui aux salariés un plan de recapitalisation via notamment une augmentation de la part de l'État dans le capital. Mais un autre problème se pose. La Commission européenne exige au nom de la libre concurrence qu'Air France cède des créneaux de vol au départ d'Orly. Un coup dur pour la compagnie, Philippe Lefebvre.
Même si ces créneaux de vol qui permettent de faire atterrir ou décoller des avions n'ont pas de valeur marchande, ce sont, il faut le savoir, les biens les plus précieux après les avions pour les compagnies aériennes, car leur chiffre d'affaires en dépend directement. Ainsi, si Air France doit céder, comme l'exige la Commission européenne, une vingtaine de créneaux de vol quotidiens à Orly, cela reviendrait à supprimer entre 7 et 8 000 vols par an. Une incohérence au moment où l'objectif est de sauver la compagnie, selon Vincent Salle, le secrétaire général de la CGT Air France.
On considère que c'est une erreur parce que finalement on peut pas d'un côté aider Air France et puis de l'autre la mettre en difficulté en l'ouvrant à la concurrence. C'est complètement absurde.
Car effectivement, ces créneaux sont très convoités par les concurrents d'Air France qui comptaient bien développer sa filiale low-cost Transavia sur les lignes intérieures au départ d'Orly. Et si l'on observe les règles mises en place par l'association Cohor qui attribue les créneaux de vol, 50% de ceux-ci pourraient être attribués aux low-cost déjà implantés à Orly et les 50% restants à de nouvelles compagnies comme, pourquoi pas, Ryanair. En résumé, Bruxelles pourrait accepter la recapitalisation d'Air France, mais bloquer sa relance et son développement en offrant sur un plateau les très rares créneaux de vol au départ d'Orly à ses concurrents qui, eux aussi, veulent se développer notamment sur le marché des vols intérieurs.
Et pour évoquer, entre autres, la situation d'Air France, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 7h50. Les fouilles devraient reprendre aujourd'hui ou demain dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, a en effet avoué sa participation à la séquestration de la fillette et donné des précisions sur le lieu où le corps aurait pu être enfoui.
Il est 7h10. Nouvelles inquiétudes, Agnès, sur l'état de santé d'Alexeï Navalny.
L'opposant russe qui a entamé une grève de la faim la semaine dernière est fiévreux et souffre de problèmes respiratoires. Il a été transféré au service médical du pénitencier de Pokrov, où il purge une peine de plus de 2 ans et demi de prison. Les précisions à Moscou, de Claude Brouillot.
D'après le service fédéral des prisons, Alexeï Navalny est maintenant sous surveillance constante du personnel médical du pénitencier de Pokrov. Preuve s'il en est que son état de santé n'est pas celui d'un simulateur, comme l'indiquait encore la semaine dernière une présentation de l'établissement qualifié d'exemplaire par un média fédéral proche du pouvoir, focus destiné à contrebalancer la réputation du pénitencier, considéré comme l'un des plus durs de Russie. Alexei Navalny a perdu 13 kilos depuis son arrivée à Pokrov il y a plus d'un mois, et il entame mercredi sa deuxième semaine de grève de la faim. Un test Covid a été réalisé aujourd'hui sur l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, qui se plaint également depuis plus de 15 jours de maux de dos et de réveils forcés plusieurs fois par nuit. En apprenant la nouvelle de son hospitalisation à l'intérieur du pénitencier, le médecin personnel d'Alexei Navalny a précisé qu'il s'agissait en réalité d'un simple service médical tenu par un seul infirmier. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et au même moment, hier, Vladimir Poutine signait la loi qui va lui permettre de se représenter aux deux prochaines élections présidentielles. Aux commandes du pays depuis 2000, Vladimir Poutine pourrait ainsi rester en place jusqu'en 2036. Enfin, c'est parti pour le marathon de Paris. Alors évidemment, oubliez les dizaines de milliers de coureurs agglutinés sur la ligne de départ. La course s'est adaptée aux restrictions sanitaires et s'appelle désormais la Green Runners Week. Une semaine pour courir 42 km avec un objectif supplémentaire, ramasser les déchets qui se trouvent sur la route. Marine Siette est allée à la rencontre de ces Green Runners entre La Courneuve et Porte d'Italie. Reportage.
Hier matin, 8h, parc Georges Valmont, seulement 4 degrés au thermomètre, mais pas de quoi refroidir Stéphane.
Donc ce matin, petit échauffement de 3 km. Et puis ensuite, j'ai fait un semi-marathon, donc 21 km en 1h50.
Une course entrecoupée par quelques arrêts nettoyage.
Je trouve un premier sac, ici une lingette, un papier mouchoir. Heureusement qu'on a les gants. Je mets tout dans le sac plastique qui permet comme ça de mettre ensuite à la poubelle.
La Green Runners Week, c'est aussi un défi écologique par jour. Nathalie a déjà tout prévu.
Demain, c'est une course à Vincennes. Je change d'endroit, j'aime bien changer d'endroit pour pas que ça soit monotone. Alors l'action qu'il faut faire demain, c'est se déplacer, soit en transport en commun, ne pas utiliser les voitures, quoi. Et moi, je vais prendre la trottinette.
Une course à la carte qui séduit un nouveau public, explique Édouard Cassignol, directeur chez Amaury Sport Organisation.
Cette course virtuelle, elle est très souple. On peut courir 5 km le lundi, puis 15 le mercredi, puis à nouveau peut-être 10 le jeudi, et ainsi de suite. Quelque chose qu'on a voulu aussi accessible.
Pour le moment, on compte 55 000 participants. Objectif, égaler les 60 000 du marathon de 2019.
Reportage de Marine Siette et le marathon en présentiel.
En présentiel,
ce
oui,
sera
c'est important.
Le 17 octobre.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur la baguette française, la baguette de pain, bientôt peut-être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et déjà réel lien social.